dans l'actualité des idées aujourd'hui. Pourquoi la recherche décroche? Ce soir-là, ils ont été plusieurs à alerter sur leur discipline en crise, de Boris Cyrulnik, d'abord qui a déploré la faible part du budget de la santé consacré à une psychiatrie française délabrée. L'obstétricien René Friedman aussi, qui a jugé nécessaire d'en améliorer les moyens avant d'étendre la PMA. Le prix Nobel de médecine, Jules Hoffmann, a jugé honteuse la situation des jeunes chercheurs en France, ce sur quoi le physicien Claude Cohen-Tanoudji a surenchéri sur la difficulté à obtenir postes et crédits. Avec nous aujourd'hui, Serge Haroche, professeur au Collège de France, médaille d'or du CNRS en 2009, prix Nobel de physique en 2012, aussi présent au débat qui avait réuni le président de la République avec une soixantaine d'intellectuels lundi dernier. Bonjour à vous, Serge Haroche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'était un débat de 8 heures. Vous avez tous défié les lois de la physique quantique, ou du moins celles du sommeil et de la patience. Vous avez pris le temps d'exprimer chacun vos idées et vous avez tenu à insister particulièrement sur l'état de la recherche française. D'abord, pourquoi avoir accepté cette intervention, cette invitation à l'Élysée?
Je pense que c'est naturel, puisqu'on nous a donné l'occasion d'exprimer ce qu'on pensait sur un problème important qui est celui de la recherche, parler au président de la République de cette question, alors que manifestement des mesures importantes doivent être prises dans ce domaine, ça semblait tout à fait naturel.
Vous avez écouté ce que vos confrères ont dit et c'était un rendez-vous trans et pluridisciplinaire. Chacun s'est exprimé aussi dans son domaine de recherche, pas simplement sur l'état de sa discipline, mais aussi sur des questions de fond, des questions de société, des questions géopolitiques également. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée dans son ensemble sur les 6 heures?
D'abord, ce qui m'a frappé, c'est que la part consacrée à la science a été relativement faible. Sur la soixantaine de personnalités présentes, je pense qu'on a été au maximum une dizaine. Il y avait beaucoup plus de politistes, de sociologues, d'historiens des religions. Et la partie consacrée vraiment au problème de la science a été peut-être une demi-heure sur les 8 heures. Donc je pense que ça dit des choses effectivement sur les problèmes que la science rencontre actuellement et que la recherche rencontre actuellement.
Donc les sciences humaines en tout cas mieux représentées aussi que les sciences dures.
Oui, beaucoup mieux, oui.
Votre intervention parmi d'autres aura eu le mérite de réveiller notre attention sur cette question de l'état de la recherche en France en ouvrant ce qui ressemble un peu à un livre noir de la recherche. Vous avez rappelé l'urgence à répondre à ces défis. Quelques semaines plus tôt, lors des cérémonies du 80e anniversaire du CNRS, le Premier ministre Édouard Philippe appelait le monde de la recherche à prendre ses responsabilités, maillon essentiel, selon lui, de la démocratie.
Vous êtes les produits d'un temps long. Autrement dit, la place que vous occupez, la responsabilité que vous avez, est d'une nature très particulière. Et nous avons besoin de vous. La France a besoin de vous. Et l'humanité, même, d'une certaine façon, a besoin de vous. Donc, voilà, je voudrais terminer très simplement en vous disant que vous devez continuer à faire ce que vous faites remarquablement bien. Vous devez réfléchir avec nous à la façon dont nous pouvons organiser les choses pour que vous puissiez le faire encore mieux. Vous devez, je crois, participer au débat public qui est engagé, pas simplement à un débat entre scientifiques ou à un débat entre scientifiques et élus, pardon. Mais vous devez prendre votre part dans la démocratie française, pas simplement en tant que citoyen, évidemment en tant que citoyen vous le faites déjà, mais en tant que femmes et hommes qui ont quelque chose à dire du monde réel et du monde que nous voulons construire. C'est une magnifique responsabilité, ce qui montre qu'à 80 ans, on peut être confronté à un futur riche et glorieux. Merci beaucoup.
Votre part, vous avez le sentiment de la prendre, vous, Serge Haroche, comme citoyen, bien sûr, mais aussi comme chercheur, comme professeur, comme physicien. Votre part ou votre responsabilité, comme le dit le Premier ministre?
Oui, enfin, j'essaye en tout cas de prendre part et d'essayer de pousser les choses dans la bonne direction. Les paroles du Premier ministre, comme celles d'autres responsables politiques, sont fortes. Il n'y a pas de question. Ils reconnaissent l'importance de la recherche, mais ce sont des paroles, justement, et il faut que des actes suivent. Et je pense que peut-être il y a un chiffre qui peut nous interpeller. La fraction du produit national brut français consacré à la recherche et au développement est restée stagnante depuis 20 ans. Elle est de l'ordre d'un peu plus de 2%, 2,2% depuis le milieu des années 90, alors que les pays avec lesquels nous sommes en concurrence ont vu leur contribution à la recherche augmenter considérablement. C'est ce que je voulais dire lorsque je dis que la recherche française est en train de décrocher. Il y a une compétition internationale qui est extrêmement forte, des pays qui font un effort beaucoup plus grand que la France. La Corée du Sud et Israël en particulier ont une part de leur PNB consacrée à la recherche qui est pratiquement le double de celle de la France, plus de 4%. Les pays de l'Europe du Nord, l'Allemagne, sont à peu près à 3% et la France stagne à 2,2%. Et les problèmes viennent en particulier de là. Si on veut changer les choses, il faut mettre davantage une fraction plus grande du budget de la France dans la recherche et dans le développement.
Et pourtant, il y a des engagements qui avaient été pris pour augmenter la part de la recherche, des engagements de la France pour la recherche à 3% du PNB. C'était il y a 20 ans. Majorité après majorité, gouvernement après gouvernement, personne ne les respecte, ces engagements. Pourquoi ?
Mais c'est un petit peu décourageant parce que personne ne les respecte, mais tous les gouvernements qui se succèdent reconnaissent qu'il faut le faire. On enfonce un peu des portes ouvertes quand on dit que la recherche est importante, que la recherche fondamentale est le terreau sur lequel les innovations vont arriver, que les innovations sont essentielles pour améliorer la situation économique et augmenter les emplois, le nombre d'emplois dans le pays. Mais les contraintes budgétaires sont telles que finalement, rien ne suit. Alors que même si il n'est même pas nécessaire d'atteindre les 3%, si on augmentait ne serait-ce que de 0,1 ou 0,2% la part que l'État consacre à la recherche, on pourrait déjà résoudre un certain nombre de problèmes graves qui se posent aujourd'hui à la recherche française.
À ce constat, à cette critique aussi à peine masquée que vous avez formulée lors de ce grand débat, je vous propose d'écouter la réponse du président Emmanuel Macron.
Il faut être clair sur ce sujet, on ne fera pas l'économie d'un réinvestissement massif public et privé. Et ce qui veut dire aussi que dans la structuration, les comportements de nos groupes privés, vous en avez peu parlé, il faut bien changer les choses. Parce que quand je regarde sur longue période la France, si elle s'illustre par une chose, c'est le peu d'investissement du secteur privé dans ses formes de recherche par rapport à de nombreux autres systèmes. Quand je regarde la part totale de notre produit. Donc nous, on doit réinvestir publiquement. Mais il y a clairement une mobilisation du secteur privé qu'on doit réussir à faire, mais qui va avec cette attractivité et ce pragmatisme qui était évoqué à l'instant.
Alors moi, j'entends quand même un peu, là, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est au privé de prendre aussi sa part du réinvestissement à faire en direction de la recherche. C'est vrai ça, Serge Haroche ?
Il n'a pas exactement dit ça. Il a dit que le privé ne faisait pas assez, ce qui est vrai. Mais il a également dit qu'il fallait que la part publique augmente. Je pense qu'il faut bien comprendre que la recherche fondamentale, la recherche de base qui cherche simplement à augmenter notre savoir, nos connaissances sur le monde et qui est la base sur laquelle les innovations pourront naître, cette recherche fondamentale, elle est essentiellement menée par le secteur public, par l'ensemble des institutions de recherche publiques et les universités. Et le privé, les industriels font très très peu de recherche fondamentale. Et c'est dommage parce qu'il y a eu une période glorieuse dans le passé où c'était pas le cas. En particulier, il y a eu de grands laboratoires de recherche privée, en particulier dans le domaine des télécommunications. Je pense aux Bell Labs aux États-Unis, je pense au CNET en France, qui faisaient de la recherche fondamentale. Mais pour des raisons de marché, pour des raisons de profit à court terme, cette recherche fondamentale les industries, dans le privé, a diminué considérablement. Et donc, c'est le devoir de l'État de la maintenir. Et sur les 2,2% dont je vous parlais, la recherche publique, la recherche financée par l'État, ne représente que 0,8%, à peu près 20 milliards. Et c'est sur cette partie-là que j'ai interpellé le président, parce que la recherche fondamentale dépend de cet effort public. Et les problèmes qui se posent aux chercheurs dans le milieu académique et dans les instituts de recherche comme le CNRS et l'INSERM sont des problèmes qui sont du ressort du gouvernement et pas de l'industrie privée.
Tous les pans de la recherche sont aujourd'hui concernés par ce manque de moyens, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Serge Haroche, est-ce que vous diriez que pour autant la question de la source, de la provenance des financements est aussi importante ? Est-ce que c'est juste une histoire de principe et d'investissement public, privé ? Ou est-ce que ça peut changer aussi l'orientation des recherches qui seront mises en place par la suite ?
Je pense que si on parle de recherche fondamentale, la seule orientation possible, c'est le fait que la recherche est dirigée et motivée par la curiosité, la nécessité que l'on a de comprendre le monde mieux, que ce soit le monde physique, c'est-à-dire savoir d'où on vient, comment évolue l'univers, le monde vivant, des connaissances à acquérir en biologie ou sur le fonctionnement du cerveau. Tout ça, ce sont des recherches de base. Et pour celles-là, c'est l'initiative, les sujets de recherche ne peuvent venir que des chercheurs eux-mêmes. C'est eux qui peuvent poser les questions et qui peuvent savoir dans quelle direction ils veulent aller. Il est vrai que la recherche qui est, elle, payée par des fonds privés, va être plus, par nature, plus orientée vers des applications et va plus concerner la recherche appliquée que la recherche fondamentale.
Quel est le salaire moyen aujourd'hui d'un jeune chercheur en France ?
Lorsque le chercheur commence, s'il a la chance d'être nommé par exemple au CNRS, il commence avec un salaire qui est de l'ordre de une fois et demi le SMIC, c'est-à-dire un salaire net qui doit être autour, je ne sais pas exactement quels sont les derniers chiffres, mais autour de 2000 euros par mois. Ce que je trouve être absolument insuffisant et inadmissible compte tenu qu'il s'agit de personnes qui sont recrutées à plus de 10 ans après le bac, après une spécialisation de post-docteurs à l'étranger en général. Et le paradoxe, c'est qu'ils, lorsqu'ils sont recrutés, ils ont un salaire qui est inférieur au salaire qu'ils avaient lorsqu'ils étaient post-doc dans une université étrangère. Et c'est une des parties, une des raisons du problème que l'on a actuellement, le manque d'attractivité de la recherche pour les jeunes chercheurs. Et ça, je pense, c'est dramatique parce que je rencontre souvent, lorsque je fais des conférences dans des lycées ou dans des universités, des jeunes lycéens ou étudiants qui ont vraiment la passion de la recherche, qui sont curieux, qui voudraient, dont le rêve serait de faire de la science ou de la recherche, et ils sont découragés par le manque de postes et par le manque de moyens. Et ce n'est pas simplement une question de salaire, il y a également un autre problème important, qui est le fait que lorsque un jeune chercheur est engagé, par exemple au CNRS ou comme enseignant-chercheur dans une université, on lui donne son salaire, mais on ne lui donne aucun moyen matériel pour commencer à bâtir son groupe, son laboratoire, s'il est expérimentateur. Alors que à l'étranger, la situation est complètement différente. Et ça fait partie du différentiel que l'on note entre la situation qui est faite aux chercheurs en France et à l'étranger et qui contribue à la fuite des cerveaux en France, qui est, je pense, dramatique.
Et quand on ne vous donne pas les moyens d'expérimenter, il faut les chercher, ces moyens. Oui. Cette quête de financement pour un jeune chercheur, aujourd'hui, c'est une part importante du job.
Oui, c'est dès le départ. La seule possibilité qu'il a dans le système français, c'est d'émarger, de remplir une demande de financement auprès d'une agence de recherche, l'ANR en France ou l'Agence de recherche européenne. Ça veut dire que dès qu'il arrive dans le laboratoire, il doit se mettre derrière son ordinateur et commencer à remplir des formulaires, à annoncer ce qu'il va faire, à donner des dates, ce qu'on appelle en anglais des milestones, c'est-à-dire des objectifs à court terme qu'il se fixe, c'est-à-dire remplir une paperasserie, une bureaucratie qui n'est pas vraiment ce qu'il cherchait lorsqu'il a commencé à faire de la recherche. Alors qu'à l'étranger, un jeune chercheur va se trouver dans de meilleures conditions, on va lui donner les moyens de démarrer, et une fois qu'il aura démarré, il sera dans une bien meilleure situation pour essayer d'obtenir d'autres contrats. Donc je pense que la situation française est absurde, même sur le plan purement économique. L'État s'engage à payer pendant des dizaines d'années le salaire d'un jeune chercheur, et il ne lui donne pas au départ les moyens de commencer à travailler dans de bonnes conditions, et les moyens également de pouvoir ensuite chercher de l'argent auprès de sources extérieures, c'est-à-dire ramener en France, en particulier s'il s'agit de fonds européens, de ramener en France ces fonds parce qu'il sera, au bout de quelques années, dans une bien meilleure situation pour le faire qu'au départ.
Et vous semblez pointer une autre faiblesse, un autre handicap de ce process, Serge Haroche, c'est qu'à l'étranger, quand on vous donne les moyens d'expérimenter, on vous les donne aussi sans trop savoir où vous allez, c'est-à-dire la possibilité de découvrir en chemin des choses que vous n'attendiez pas, avec au contraire, ici en France, une sorte d'obligation de résultat et un risque d'orientation des recherches en fonction du commanditaire, de celui qui donne le crédit.
Oui, vous avez raison. Le principe même du contrat à court terme, en général ce sont des contrats de 3 ans, c'est qu'il faut obtenir un résultat au bout de cette période. Et la seule façon, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller dans des voies qui sont déjà plus ou moins connues, c'est-à-dire faire des recherches qu'on appelle incrémentales, qui ajoutent un petit peu à la connaissance, mais ce ne sont pas des recherches qui vont fondamentalement commencer un thème nouveau, aborder des sujets vraiment inconnus et conduire peut-être à des découvertes importantes. Et des jeunes chercheurs ont cette ambition, mais cette ambition, elle est frustrée, elle est contrariée par la façon dont le financement est accordé. Alors que je le répète, dans d'autres pays, les jeunes chercheurs ont la possibilité de se lancer dans des voies ambitieuses qui risquent, dans lesquelles ils courent un risque. Et ça, c'est un autre aspect de la situation française. En France, en général, les jeunes chercheurs sont nommés sur des postes de fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont la sécurité de l'emploi. À l'étranger, très souvent, on les nomme sur ce qu'on appelle des postes tenure track, c'est-à-dire des postes avec à titularisation conditionnelle. La titularisation ne vient que s'ils ont fait leurs preuves. Donc c'est un peu une espèce de contrat implicite que la France passe avec ses chercheurs. Elle leur donne la sécurité de l'emploi, mais elle leur donne pas vraiment les moyens de travailler dès le départ. Et il faut trouver un équilibre entre sécurité de l'emploi et risques qui viennent du fait que la recherche est une activité risquée. Si on veut aller dans des voies inconnues, explorer des chemins inconnus, on n'est pas sûr du succès. Donc il faut trouver une voie médiane qui permet aux chercheurs d'avoir une certaine sécurité matérielle et en même temps de pouvoir prendre des initiatives qui sont par nature même risquées, surtout en recherche fondamentale.
Vous parliez de ce manque d'attractivité aussi à double sens, hein, parce que ça signifie des chercheurs, jeunes chercheurs français qui partent et qui ne reviennent pas souvent puisqu'ils ne retrouvent pas ici les conditions pour un retour. Mais ça signifie aussi des chercheurs étrangers qui ne viennent pas développer ou chercher en France. En quoi il est important de maintenir notre rang, celui de la France, dans la compétition internationale ? Qu'est-ce que ça apporte?
C'est essentiel. D'abord, bon, c'est essentiel. Ça fait partie du rayonnement du pays. La France a une histoire scientifique qui remonte au moins au XVIIe siècle. C'était une des grandes nations de la science au XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Elle a apporté d'immenses contributions dans différents domaines. Moi, je connais bien la physique, mais c'est également le cas en biologie. Et je pense que la culture, l'acquisition des connaissances fait partie de l'aspiration de l'humanité au même titre que les biens matériels. Donc je pense que, surtout dans une période où on met l'accent surtout sur le fait qu'une partie de la population se sent délaissée, n'a pas les moyens de vivre comme elle le veut, il ne faut pas oublier que le bonheur ou les aspirations des gens ne sont pas limitées aux moyens matériels, que la lecture, la culture, la science font partie de ce qui donne des raisons de vivre et d'espérer. Et donc, en ce sens, il est important que la France contribue, même en recherche fondamentale, même sans application, sans utilité immédiate. À côté de ça, il y a l'utilité. Les recherches fondamentales conduisent à des applications qui ont modifié notre vie au XXe siècle. Toutes les inventions, les instruments qui nous entourent, tout ce qui fait qu'on a une vie plus facile maintenant, vient des avancées scientifiques. Et des pays avec lesquels on est en concurrence, comme la Chine en particulier, font des efforts énormes d'investissement en science pour les innovations futures. Et il faut que la France contribue absolument à cela. On ne peut pas rester une puissance un pays qui se contente de profiter des recherches qui sont effectuées à l'étranger. Il faut maintenir cet effort, il faut attirer les jeunes vers la science, parce que finalement notre seule ressource naturelle, notre seule richesse, c'est la richesse qui réside dans les cerveaux et dans des jeunes. Il y a en France les Français, la formation des scientifiques des Français est reconnue à l'étranger. Vous disiez qu'il y a beaucoup de Français qui partent. Ils partent parce que on les appelle, parce que on leur offre des positions qui sont bien meilleures que celles qu'on a en France.
Chine, États-Unis, Serge Haroche, est-ce que vous voyez, à quelques semaines du scrutin européen, dans cet échelon européen, un recours en matière de recherche ?
Et je pense qu'il faut effectivement que l'Europe ait une politique de la recherche cohérente, que les différents pays d'Europe se concertent et agissent ensemble. Ils le font déjà. L'ERC, l'European Research Council, distribue des crédits de recherche importants. Et sans ce programme de recherche, aussi bien pour les juniors, les jeunes chercheurs, que pour les chercheurs confirmés, un grand nombre de recherches auraient été absolument impossibles. Donc il faut que cet effort soit maintenu et amplifié. L'Europe également a des projets, a des grands programmes de recherche. Par exemple, dans mon domaine, Il y a un grand programme qui cherche à développer les technologies quantiques, c'est-à-dire les technologies qui, basées sur la physique quantique, vont améliorer notre façon, nos moyens de mesure, de communication et de calcul. Donc c'est un programme qui est extrêmement important. La France participe au projet européen. Ce que je regrette, c'est que, alors que d'autres pays comme l'Angleterre et l'Allemagne ont des programmes spécifiques nationaux qui accompagnent les programmes européens, en France, il y a très peu de crédits supplémentaires qui sont accordés au niveau français. Et ça provient du fait que, je vous ai dit que le budget de la recherche français est très limité, mais la plus grande partie de l'argent que reçoit par exemple le CNRS passe en salaire. Et il y a très peu d'argent que ces instituts peuvent distribuer sur des programmes de recherche pour le fonctionnement récurrent des laboratoires. Et c'est ça aussi un des graves problèmes, l'absence de fonds récurrents, le fait que toute la recherche est basée exclusivement sur des contrats.
Vous parliez du rayonnement de la France, Serge Haroche. Comment, à partir de quels indicateurs, est-ce qu'on évalue aujourd'hui la bonne santé de la recherche française dans cette compétition internationale, la bonne ou la mauvaise?
Bon, il y a des indicateurs numériques, par exemple la bibliométrie, savoir quelle est la fraction des publications qui proviennent de chercheurs français. Et je pense que dans ce domaine, la France est pas mal placée. Mais je voudrais critiquer un petit peu cette façon de compter. Le développement des moyens numériques, des big data, comme on dit, fait que maintenant, on peut tout numériser. Les publications scientifiques, on peut compter le nombre de citations qu'une publication obtient. Et beaucoup d'instituts de recherche, pas seulement en France, utilisent cela comme une espèce de mesure quasi exclusive de la valeur de la recherche. Et ça pousse les scientifiques à publier, simplement pour augmenter leur taux de citation.
Alors justement, je vous propose d'écouter à ce sujet les mots de Hervé Maisonneuve, qui est médecin, professeur associé de santé publique à l'université Lyon 1, spécialiste de cette question de l'édition scientifique. Il était interrogé par Nicolas Chevassieux-Louis.
Publish or perish, publier ou mourir. On a au cours du temps, progressivement, évalué les carrières, les promotions des scientifiques sur leur nombre de publications, sur leur volume de publications, sur la notoriété des revues dans lesquelles ils publiaient, mais on n'a jamais évalué les carrières sur la qualité de leur travail, sur le fond du travail, sur la qualité des publications. Alors pourquoi ça ? Parce qu'il y a un facteur qui s'appelle, dans le jargon, facteur d'impact, qui est un excellent indicateur de notoriété des revues. Le facteur d'impact, c'est un indicateur de notoriété des revues conçu pour attirer la publicité, pour vendre à des bibliothèques, et c'est un bon indicateur dans un sens marketing. Mais cet indicateur a été accaparé par les scientifiques pour évaluer les hommes. Et il n'a jamais été conçu pour ça. Alors bien sûr, il est beaucoup plus facile d'évaluer les hommes sur un chiffre qui sort d'une machine dont on ne sait pas comment il est calculé. Ça va vite, ça évite d'avoir des interviews, ça évite de lire le travail, ça évite de l'évaluer. Et on prend un indicateur qui n'a pas été fait pour ça, pour évaluer les carrières. Alors les chercheurs ont bougé derrière tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont compris que c'était l'indicateur qui était important.
Hervé Maisonneuve, interrogé par Nicolas Chevassieux-Louis, auteur par ailleurs de Malscience, dans le cadre d'une série d'enquêtes qui a été publiée sur Mediapart. C'était déjà il y a 5 ans, Serge Haroche. C'est le problème que vous cibliez aussi?
Non, il a raison lorsqu'il critique le fait que l'évaluation ne peut pas se borner simplement à un décompte de papiers publiés. Bon, il caricature un petit peu parce que j'ose espérer que les instituts de recherche et les universités, lorsqu'elles engagent quelqu'un, lorsqu'elles recrutent quelqu'un, font attention également au contenu. Mais c'est vrai qu'il y a une forte tendance à cela, à faire des bibliométries. Il y a des pays dans lesquels c'est encore beaucoup plus caricatural qu'en France. Je parlais de la Chine tout à l'heure. Je sais que les chercheurs chinois, lorsqu'ils publient dans une revue comme Nature Science, qui sont les revues les plus, les indices les plus élevés, de notoriété les plus élevés, bien lorsqu'ils publient dans une de ces revues, ils reçoivent une prime qui correspond à plusieurs mois de salaire. Et ça, je pense, c'est un dévoiement total de l'esprit de la recherche. Ça pousse à publier beaucoup, ça pousse à survendre ses résultats, ça pousse à publier, à republier les mêmes choses sous une forme différente. Donc il y a toute une critique à faire du système, du marché. En fait, il a parlé de marketing, et c'est vrai, mais une grande partie des problèmes que j'ai notés, dont on a discuté, elles proviennent de la marchandisation, du fait que le marché a tout envahi, pas seulement la recherche, mais on peut faire remonter la plupart des problèmes dont on a parlé aujourd'hui, au grand tournant des années 80 avec Reagan et Thatcher, qui ont rendu cette notion de rendement, de marché essentiel. Les contrats sont apparus à ce moment-là. Et si vous y réfléchissez, la notion de contrat à court terme, ça véhicule des idées qui sont des concepts, des valeurs qui sont à l'opposé même des valeurs de la recherche. Un contrat, c'est quelque chose qui est à court terme, alors que la recherche est à long terme. Un contrat, c'est l'absence de confiance. On vous demande de promettre quelque chose, alors que la recherche doit être basée sur la confiance. Et donc, il y a quelque chose, il y a une dérive de la recherche dont on voit différents aspects, dont l'aspect des publications, dont les publications ne sont qu'un seul aspect, mais tout va dans le même sens, et je pense qu'il faut repenser un peu tout ça si on veut améliorer la situation.
D'autant plus urgent de le repenser que vous insistez aussi sur l'importance à la fois de la confiance et de l'indépendance de la recherche, notamment en termes de vérité scientifique, la science comme réponse au relativisme culturel. On parlait de l'importance aujourd'hui d'investir dans la recherche. Et il y a pour vous vraiment un sens à donner, à redonner dans nos sociétés à cette quête de connaissances et de vérité.
Oui, je pense qu'effectivement, vous avez raison de dire que la science, pas seulement la science, mais que la notion même de vérité, d'objectivité, est mise en danger par cette culture de la post-vérité, les fausses nouvelles, les théories du complot. Et tout ça, ça va à l'encontre de la science. La science est le point de départ de la science, c'est l'observation de faits indiscutables, et à partir de l'observation, la construction de théories, de modèles, qui se confrontent en permanence à l'observation, qui reviennent vers l'observation, qui vérifient que les modèles sont valables, qui permettent de prévoir des choses nouvelles qui sont effectivement observées. Et cette construction, elle est complètement contradictoire avec les théories du complot, le relativisme culturel qui consiste à dire que n'importe quelle opinion vaut n'importe quelle autre, qu'une opinion a la même valeur qu'une théorie scientifique. Tout cela est une espèce de grande confusion que l'on ne peut combattre que par l'éducation, au niveau le plus basique, mais également par la communication sur la science. Il faut que la société, il faut que les gens qui ne sont pas des scientifiques soient mieux à même de comprendre les valeurs de la science et les objectifs de la science. Le fait, par exemple, qu'une grande partie de la société, des gens qui sont interrogés, sont sceptiques vis-à-vis de la vaccination, c'est à mon avis un signe terrible de ce manque de compréhension des valeurs de la science et de ce doute qui instille maintenant toute la société et qui est un des graves problèmes qui se pose en amont de tous les problèmes auxquels on a fait référence aujourd'hui.
Mais c'est plutôt sain de douter. La question, c'est vers qui tourner son regard.
La science doute toujours. Mm. Par définition, une théorie scientifique n'est valable que jusqu'à ce qu'elle soit prouvée fausse. Donc la science se remet sans arrêt en question, mais elle se remet en question dans un cadre cartésien, dans un cadre de raisonnement rationnel. Et ça n'a rien à voir avec le doute qui consiste à dire que tout se vaut ou que n'importe quelle théorie du complot est valable. Je pense que c'est un problème. Et je pense qu'il faut qu'il y ait plus de communication de la science et du grand public. Un autre problème que je voudrais mentionner, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la participation à ce grand débat l'autre soir, c'est le fait que dans la société française, il y a très peu, finalement, de responsables qui ont eu une formation scientifique. Dans le monde politique, je ne crois pas qu'il y ait au gouvernement, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas qu'il y ait au gouvernement un seul docteur en sciences. Si vous regardez le gouvernement chinois, qui n'est pas un modèle, je le reconnais, de démocratie, il y a plusieurs scientifiques dans le gouvernement chinois. Donc, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures ou des décisions, ils sont davantage informés. Ça pointe sur un point qui est également important, c'est que le titre de docteur en France n'est pas suffisamment reconnu. Vous pouvez aller dans une carrière d'administration ou dans une carrière de grand dirigeant d'entreprise si vous sortez d'une grande école, mais si vous sortez d'université avec un doctorat, vous avez beaucoup plus de mal pour cela. Et ça provient également historiquement du fait qu'en France, il y a eu cette dichotomie entre grandes écoles et universités. Et c'est un des handicaps qu'a la France également, le fait que le système français a divisé de façon trop nette ces deux types de formations. Et ça a également un effet secondaire important, c'est que vis-à-vis de l'étranger, le système est complètement illisible. Un jeune Chinois ou un jeune Indien qui veut aller faire des études à l'étranger, il comprend très mal le système français, qui est trop complexe, qui est trop franco-français, je dirais, et donc il va plutôt aller dans le système anglo-saxon, aux États-Unis, en Angleterre ou même en Allemagne plutôt qu'en France, à cause de cette question.
Alors pour pallier ce manque, est-ce qu'il est important du coup de développer des signes de reconnaissance internationaux? On a l'impression qu'on multiplie depuis des labels, labels laboratoire d'excellence, labels pour essayer de tamponner la bonne qualité de la recherche française et de mettre en avant aussi ces centres. Ça peut être utile.
Oui, bon, je pense que ça peut être utile, mais je pense que le problème, c'est d'essayer, il faut résoudre le problème dans le fond. Le problème du fond, c'est améliorer le sort des jeunes chercheurs, leur donner les moyens, améliorer également les financements récurrents pour les chercheurs confirmés, et ça conduira automatiquement à une amélioration de la recherche. Chercher le label simplement, ou être obsédé, par exemple, par le classement de Shanghai, est à mon avis une mauvaise solution. Il y a beaucoup de mouvements dans cette direction, d'universités ou d'institutions en France qui cherchent à améliorer leur classement en allant dans le sens des recommandations ou en tenant compte des critères de Shanghai pour essayer artificiellement d'augmenter, d'améliorer le classement. Mais je pense que ça, c'est pas une vraie solution de fond, c'est juste un habillage.
Est-ce que la recherche recrute encore aujourd'hui, Serge Haroche, des grandes institutions comme le CNRS? Est-ce qu'on va vers une hausse des recrutements?
C'est pas la direction qui a été prise actuellement. Je pense que cette année, les recrutements vont être encore très faibles. Il y a cette obsession également de ne pas augmenter la masse des fonctionnaires. Et donc, on ne recrute qu'en fonction des gens qui partent. Et donc, il n'y a pas d'augmentation du nombre de chercheurs. Il y a très peu de positions nouvelles laissées aux chercheurs et des positions qui, en plus, des postes qui, en plus, ne sont pas très attractifs. Donc, on recrute, effectivement. Il y a une grande proportion de candidats au recrutement. Très peu sont pris. Il y a peut-être 100 candidats pour un poste, quelque chose de ce genre. Mais beaucoup de candidats sont des étrangers. Et des étrangers qui viennent de pays où la situation est encore pire qu'en France. Je pense en particulier à l'Italie, qui a été complètement, dans laquelle la science a été complètement dévastée. Pourtant, l'Italie était un grand pays de recherche. Eh bien, on profite en France de l'arrivée de jeunes chercheurs italiens brillants. C'est très bien, mais c'est pas, je pense, une solution à nos problèmes.
Vous avez commencé, vous, il y a 40 ans environ, Serge Haroche. Dans le système actuel, vous ne seriez pas resté? Vous seriez parti tout de suite?
Je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé, la situation était bien meilleure. Il y avait davantage de crédits récurrents, il y avait beaucoup plus de confiance dans le système. Dans les années 80, j'ai passé quelques années aux États-Unis et j'ai finalement décidé de revenir en France parce que j'ai trouvé que le système français était meilleur que le système américain, qu'il y avait justement une plus grande confiance qui était faite dans les chercheurs. Je ne sais pas si je serais revenu aujourd'hui parce que le système français s'est aligné sur le système anglo-saxon dans ce, à mon avis, ce qu'il avait de plus contestable et de plus critiquable.
Et, c'est-à-dire?
Le fait que tout reposait sur les contrats et qu'il n'y avait pas moyen d'avoir un programme à long terme et de garder une équipe cohérente autour de soi en dehors de contrats de recherche à court terme. C'est une situation qui existe de moins en moins en France, donc je ne sais pas ce que je ferai aujourd'hui, mais je préfère l'atmosphère, la culture, la façon de vivre en France, mais il y a des limites et je comprends très bien que les jeunes chercheurs qui sont vraiment ambitieux partent à l'étranger dans les conditions actuelles. Je le regrette et j'espère que ça va changer.
Voilà, donc c'est à la fois un plaidoyer pour une recherche qui se situe dans une perspective de long terme, ce qu'on évoquait avec la question des contrats, et en même temps un plaidoyer dans l'urgence et pour une action rapide de réinvestissement dans la recherche française que vous avez portée lundi dernier et que vous êtes venu relayer ici à notre micro. Merci beaucoup à vous, Serge Haroche, d'être passé autour de cette grande table.
Merci.
Et un grand merci à toute l'équipe, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture, avec l'aide précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Clément Daté. Très bel après-midi à tous sur France Culture.